l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. En Corée du Sud, l'année scolaire 2021 a commencé début mars. Mais comme l'an dernier, les universités continuent d'effectuer des cours en ligne sans contact. Selon le ministère de l'Éducation, parmi 330 établissements d'enseignement supérieur, aucun d'entre eux ne fournit tous ses cours hors ligne sur place. La plupart d'entre eux offrent des leçons sur Internet en fonction du niveau de distanciation sociale. Dans ce contexte, les commerces situés dans l'enceinte des campus où les étudiants ont quasiment disparu sont directement touchés par cette crise sanitaire. D'après l'Association coréenne des coopératives de consommation des universités, qui gère les commerces sur les campus universitaires, le chiffre d'affaires de 22 coopératives en 2020 a chuté de 80% par rapport à l'année précédente. Un bon nombre de magasins ont même fermé leurs portes. En mars 2021, seuls 60% des boutiques, des restaurants et des cafés étaient restés ouverts. Le déficit des coopératives varie entre 75 000 euros et 900 000 euros. Liu est un commerçant qui appartient à l'une de ces coopératives. Il gère depuis 10 ans une petite cordonnerie dans l'université de Kwangguk à Séoul. En général, il accueillait chaque jour au moins 10 clients. Mais depuis la propagation du COVID-19, ce n'est plus le cas. Alors que la rentrée scolaire a eu lieu au début du mois, en raison des cours qui sont donnés en ligne, il y a à peine un ou deux clients par jour. Selon Liu, les magasins à l'extérieur du campus ont toujours des clients le week-end aussi, mais ceux à l'intérieur du campus sont plus affectés par la crise. Il a déjà payé son loyer annuel à l'avance, mais son revenu a diminué, ce qui rend difficile de supporter le coût de la vie. Maintenant que les universités sont presque fermées, l'exploitation des magasins sur le campus est de facto limitée. Néanmoins, ils ne peuvent pas bénéficier de subventions spéciales du gouvernement, car les librairies, les salles de photocopie ou les magasins de lunettes ne sont pas inclus dans les secteurs pour qui le gouvernement force à limiter l'exploitation ou interdit le rassemblement de foule. Pour les secteurs qui font l'objet de ces mesures, ils offrent des subventions et des emprunts spéciaux. Les commerçants dans les universités protestent en qualifiant cette disposition d'injuste. Selon eux, les cafés et les restaurants situés dans les campus universitaires peuvent profiter des aides financières du gouvernement, mais pas d'autres magasins qui souffrent aussi de la chute des clients causée par les cours en ligne. À ce propos, l'association appelle les universités et le ministère de l'Éducation à prendre des mesures pour aider ces petits commerçants. Elle demande de les inclure dans les bénéficiaires des soutiens gouvernementaux, comme les secteurs du tourisme et du spectacle. Kim, âgé de 28 ans, se prépare au concours de la fonction publique. Depuis 4 mois, il participe à une réunion pour le sommeil avec 12 autres membres. Leur objectif est de se coucher à minuit et de se lever à 6 heures du matin. Pour cela, il programme une alarme pour l'heure du coucher et du réveil au moyen d'une application mobile et pendant ce temps-là, il n'utilise aucun logiciel. Le matin, quand il se réveille, il laisse un message comme « J'atteins mon objectif pour le sommeil » afin de le faire connaître aux autres membres. Et il ne faut pas oublier d'y joindre une photo de l'écran de son smartphone qui indique les données sur l'utilisation de son téléphone. Selon Kim, grâce à cette réunion, en regardant son téléphone intelligent, au moment où l'heure fixée arrive, il peut maintenant lâcher l'appareil tout de suite pour se coucher. Et il estime qu'il dort ainsi mieux qu'avant. La réunion consistant à surveiller les heures du sommeil et du réveil des autres entre les membres sont à la mode chez les jeunes. S'ils y ont recours, c'est parce qu'ils ne peuvent pas du tout arrêter par eux-mêmes d'utiliser leur smartphone jusqu'à très tard la nuit. En effet, sur un site communautaire en ligne, des jeunes qui se préparent au concours de la fonction publique, il y a plusieurs propositions destinées à trouver des participants à des réunions pour le sommeil. Alors qu'ils imposent des conditions assez strictes comme « ceux qui ne participeront pas plus de 3 fois seront renvoyés » ou « en cas de transgression du règlement, il faut payer une amende de 2 000 won, soit environ 2 euros ». Malgré de telles conditions exigeantes, les volontaires se succèdent. Yi est l'un d'entre eux. Avant, il lui arrivait très fréquemment de rester réveillé jusqu'à 3 heures du matin en regardant des contenus sur YouTube ou des webtoons. Mais après avoir pris part à l'une de ces réunions, il est obligé de lâcher son téléphone à l'heure qu'il a fixée, ce qui lui permet de dormir plus tôt. Les applications mobiles qui aident à gérer le temps de sommeil sont aussi populaires. Celles qui bloquent l'accès à des programmes spécifiques pendant que les utilisateurs dorment sont également plébiscitées. Certains logiciels, de leur côté, enregistrent tous les jours les heures du coucher et du réveil et analysent le rythme du sommeil des utilisateurs. D'après ces derniers, quand ils voient qu'ils ont réussi à atteindre leur objectif via ce type d'application, cela leur fait plaisir et les encourage à continuer. Le week-end dernier, une pluie printanière est tombée en Corée du Sud. Elle a commencé samedi pour continuer jusqu'à dimanche. Pour ceux qui prévoyaient de sortir pour apprécier les fleurs qui s'épanouissent ou faire des activités en extérieur, cette pluie n'était pas du tout la bienvenue. Mais pour certains, c'était une bonne nouvelle qu'ils attendaient impatiemment. C'est le cas du personnel du service des forêts. En général, au printemps, elle ne peut pas bien dormir à cause des incendies de montagne qui se déclarent fréquemment. En outre, le week-end où les gens sortent plus souvent, on ne peut même pas imaginer à quel point sa tension s'élève. L'Institut national des sciences forestières de Corée a récemment effectué une étude pour évaluer l'effet préventif de la pluie printanière contre les incendies de montagne. Il a mesuré et analysé la quantité d'eau des feuilles mortes dans les forêts à 15 heures, l'heure où le risque d'incendie est le plus grand. Selon cette étude, cette quantité était en moyenne de 23%, ce qui est un niveau inférieur à celui de la moyenne annuelle, soit 30%. Si la quantité d'eau des feuilles mortes descend en dessous du seuil de 18%, le risque d'incendie s'envole. Cela permet de déduire que les feuilles sèches au printemps favorisent l'incendie. Cependant, s'il pleut, cette quantité d'eau bondit rapidement. Après la pluie, le lendemain, elle augmente jusqu'à 97% au maximum. Pour ce qui est de l'effet préventif de la pluie, en fonction de la quantité de celle-ci, si les précipitations s'élèvent à 5 mm, cela prévient tout incendie dans la forêt pendant 25 heures. Si elles atteignent 1 mm, la protection dure pendant 5 heures. L'Institut national a évalué cet effet d'un point de vue financier sur la base des données de 2019. Cette année-là, il y avait quelques grands incendies dans les montagnes. Celui de Gosan, dans la province de Gangwon, a ravagé 2900 hectares de forêt. Un jour, 19 incendies de montagne ont été signalés. D'après l'évaluation de l'organisme, s'il avait plu avant ces incendies, les retombées économiques auraient dépassé au maximum 9 millions d'euros par jour. Dans cette estimation sont prises en compte le montant des dégâts causés par ces feux, la diminution de la valeur évaluée des forêts brûlées et le coût de leur extinction, ainsi que les frais nécessaires pour déployer des hélicoptères pour étouffer ces incendies.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour de mercredi 31 mars, vous êtes en compagnie de Ko Jang-sun. Sur YouTube, il y a une chaîne baptisée Jeollago. Jeolla est le nom d'une province sud-coréenne située dans le sud-ouest du pays. Cette chaîne en anglais est dirigée par une jeune Française qui s'appelle Léa Moreau. En fait, elle était l'une des invitées de l'émission Seoulscope l'an dernier. Léa, qui aime ardemment la province de Jeolla et le pays du matin clair, espère faire connaître cette région non seulement aux Français, mais aussi dans le monde entier. Pour cela, elle se déclare ambassadrice honoraire des provinces de Jeolla du Nord et du Sud. En effet, elle est une fonctionnaire qui travaille pour la mairie de Suncheong dans la province de Jeolla du Nord. Elle a signé en juin 2019 un contrat à durée déterminée pour 2 ans. Depuis, sa chaîne est pleine de contenu qui présente les charmes et les spécialités culinaires de cette ville. Elle joue aussi le rôle de guide pour les circuits en autobus destinés aux touristes. En costume traditionnel coréen, elle est conduite aux sites célèbres et leur présente la beauté de la région. L'année dernière, ses excursions ont été suspendues plusieurs fois en raison du coronavirus, mais au deuxième semestre, environ 500 personnes y ont pris part. Elles ont beaucoup apprécié ses commentaires pleins d'esprit, ses rires et ses connaissances profondes sur cette région. Le week-end ou les jours de congé, elle fait du bénévolat dans un centre de travailleurs immigrés en tant que traductrice. Ou bien elle se rend dans d'autres villes et rencontre des amis pour discuter avec eux en buvant du macgeolli, un alcool de riz fermenté à l'aspect laiteux. Sa première visite en Corée du Sud remonte à 2014. Elle est venue voir un ami coréen. Arrivée à l'aéroport d'Incheon, elle s'est tout de suite dirigée vers la ville de Gumi dans le sud-est du pays. Elle a voyagé dans plusieurs villes méridionales pendant 3 semaines. 2 ans plus tard, elle est revenue pour faire son stage dans une guest house gérée par l'un de ses amis. Cet établissement se trouvait à Gwangju, à 35 km à l'ouest de Suncheong. Là-bas, elle a fait diverses expériences. En travaillant dans cette guest house, elle a servi de guide aux visiteurs et voyagé partout dans les provinces de Jeolla du Nord et du Sud. Elle a aussi publié un guide en anglais pour les visiteurs de son établissement avant de créer sur YouTube sa chaîne Jeollago. Uniquement dans ses provinces, Léa a visité plus de 60 villes. Elle a acheté un drone pour filmer des paysages et les poster sur la plateforme. Elle a également ouvert une nouvelle chaîne destinée aux Français baptisée Léa Adventure. Une telle passion pour cette région et ses expériences riches en tant que voyageuse lui ont permis d'être embauchée par la mairie de Suncheong, qui cherchait des moyens de faire la promotion de ses spécialités culinaires. Son contrat s'achève dans 3 mois. Où qu'elle aille après, elle continuera de chercher divers moyens de profiter de la liberté de sortir de son lieu d'habitation et de parvenir au bonheur. Les autobus urbains sont des moyens de transport très pratiques. Si on énumère 3 éléments nécessaires, ce seraient les véhicules, les arrêts de bus et les lignes de bus. S'il n'y a pas de véhicule, le service de transport n'est pas possible. Sans arrêt de bus, il est impossible de prendre des passagers et sans ligne définie, il n'existe pas de destination, donc les passagers ne peuvent pas descendre. Or, il y a un autobus qui circule et qui manque l'un de ces éléments, les lignes. Il s'agit de l'autobus iMode qui circule sur l'île de Yeongjong où se trouve l'aéroport international d'Incheon. Il s'agit d'un système de transport qui s'adapte aux demandes des utilisateurs. La municipalité de cette ville l'a mis en service en octobre 2020. On peut utiliser iMode aux arrêts de bus ordinaires, mais il n'a pas de ligne fixe. À travers une application pour mobile, chaque passager indique les arrêts de bus pour son départ et son arrivée. Alors un véhicule pour 16 personnes vient le chercher pour l'amener à sa destination en prenant un itinéraire optimal. Si ce nouveau système fonctionne bien, il permettra aux citoyens qui habitent dans les grandes villes d'utiliser les moyens de transport en commun comme leur voiture particulière. la municipalité prévoit d'élargir les zones de service d'Aimod, d'autant plus que l'exploitation de plusieurs terrains à bâtir est en cours dans cette ville et que les lignes d'autobus ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande explosive. Ainsi, d'autres nouvelles villes qui ont le même problème pourront prochainement profiter de ce nouveau système intelligent. Selon les statistiques en Corée du Sud, le nombre de personnes handicapées est de 2,5 millions et 35% d'entre elles sont classées personnes avec un handicap grave. Or, parmi celles que l'on croise dans la rue, peu sont habillées de manière raffinée et chic. Pourquoi cela? Pour les personnes avec un handicap grave, mettre un vêtement est déjà une activité très difficile. Notamment, c'est le cas de ceux qui souffrent de paralysie cérébrale, qui ont du mal à utiliser librement leurs bras et leurs jambes rigides. Du coup, elles portent le plus souvent des vêtements faits de matières qui ont une élasticité importante, comme l'élastane, ou ceux qui sont plus grands que leur taille. Il y a peu d'entreprises spécialisées dans les habits adaptés à ces gens. De ce fait, ils doivent raccommoder des costumes de confection. Park Ju-hyun est l'une des mères qui le faisait pour sa fille qui souffre d'une maladie cérébrale. Chaque fois qu'elle habillait son enfant, dont le corps était plus rigide que normal, c'était une tâche très difficile. Elle devait faire attention à ne pas blesser ses bras rigides en les courbant pour les mettre dans les manches. Alors cela prenait beaucoup de temps. Ainsi, Park a réfléchi à comment elle pourrait l'habiller plus facilement. Sur le plan de la commodité, elle n'avait pas d'autre choix que de prendre des matières élastiques ou des vêtements amples. Mais si on porte un vêtement plus grand que sa taille, ce dernier remonte facilement pour révéler sa peau. Alors elle a décidé de raccommoder des habits pour sa fille. Elle voulait l'habiller de jolis vêtements et de sa taille, d'autant plus que les gens ont tendance à fixer leur regard sur les enfants avec un handicap ou à les éviter. Park n'a jamais appris à confectionner des vêtements. Alors, tout en pratiquant une activité professionnelle, elle a appris à le faire à chaque fois qu'elle avait du temps libre. Les vêtements qu'elle a refaits sont devenus célèbres parmi les mères qui ont le même souci. Elle a donc participé à un projet mené par la municipalité de Séoul avec quelques parents d'enfants handicapés et publié un guide sur le raccommodage de vêtements pour les personnes avec une maladie cérébrale. Après, elle a fini par créer une entreprise spécialisée dans les vêtements pour handicapés. Sa firme confectionne aussi des habits universels que les personnes sans handicap peuvent également porter afin qu'ils puissent mieux comprendre les corps de celles avec handicap. Elle fabrique aussi des produits avec des designs conçus par des gens talentueux qui sont atteints d'un trouble du développement. Elle espère que de tels efforts pourront contribuer à améliorer la prise de conscience des personnes sans handicap sur celles avec handicap.
Bonsoir à toutes et à tous. Le film de M-Line Distribution, A Distant Place, signé par Park Eun-young, sort un peu des clichés du film indépendant sud-coréen en se frottant au sujet de l'homosexualité masculine, sujet délicat au sein d'une culture conservatrice. Le film la joue naturaliste en nous plongeant dans les aventures sous sédatif d'un couple d'hommes et de leur petite fille au beau milieu de la campagne et des élevages de moutons. Bien sûr, cela va être tout de même compliqué. C'est ce que nous allons voir. Disons-le d'emblée, un couple homosexuel dans la belle campagne sud-coréenne, cela passe. Mais ce couple se retrouvant au sein du milieu très machiste des moutons, c'est assez surprenant. En effet, quoi de plus macho que ces béliers chefs de tribu avec leur harem de brebis qui passent leur temps à engrosser. De plus, il est notoire, car ostensiblement visible, que moins de 8% des béliers ou des brebis ont des pratiques homosexuelles. Il y a donc un dépaysement de l'homosexualité, c'est certain, et on n'y trouve pas facilement de métaphore, sauf celle du retour à la nature comme source des instincts, quels qu'ils soient. Mais il n'y a pas que les moutons dans A Distant Place, il y a aussi une femme.
Je
On peut résumer l'intrigue ainsi. Après avoir monté un élevage de moutons dans la campagne de Wachon, Jin-woo, joué par Kang Ki-woo, et son petit copain Yeon-min, joué par Hong-kyung, s'occupent de la petite Sol, nièce de Jin-woo, abandonnée par sa mère. Elle est mignonne, aime les moutons et les moutons l'aiment. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ovidés. Mais survient la mère de Sol. Sœur jumelle, nous dit-on, de Jin-woo. Les affaires de famille se compliquent sérieusement. On n'a plus le temps de compter nos moutons. Elle veut reprendre sa fille, mais son frère ne le veut pas. Bref, elle va cafeter au village que les deux éleveurs de moutons sont des homosexuels. Le drame gronde et la femme en est la cause. Le film A Distant Place a rapidement attiré l'intérêt des festivals internationaux qui font une place aux films traitant des minorités, en particulier la minorité homosexuelle, qui est transclassiste et touche autant les nantis que les prolétaires. Surtout que le film fait l'impasse sur la sexualité, à la différence par exemple de Mademoiselle de Park Chan-wook, qui fantasme sur ses personnages de lesbiennes. Le réalisateur Park Geun-hyun la joue donc soft, avec un peu de poésie, l'amant du héros et prof de poésie à 16 heures. Et aussi d'humour, la petite Sol appelle Jin-woo maman et Yeon-min papa. On aurait pu aussi s'attendre à voir une communauté conservatrice très hostile aux couples homosexuels. Mais le réalisateur choisit de nuancer les personnages. Il a spécialement choisi l'acteur qui joue bon, qui joue l'étrange et sympathique l'employeur des enlèveurs de moutons pour le faire. Finalement, le film réussit à sortir de l'ornière habituelle des films indépendants sud-coréens, en ceci qu'il se coltine crânement de sacrés sujets comme l'homosexualité et les sombres histoires de famille. Il n'échappe pourtant pas à la lenteur considérée comme signe de qualité, cela reste à prouver, et la joliesse de carte postale pour ses vues alanguies de la végétation, des collines et des moutons. Jouant de la couleur à outrance dans leur intensité, le film dit clairement son envie paradisiaque, mais aurait pu mieux conceptualiser sa charte de couleurs et ses effets naturalistes. Il en reste pas moins que le film est un document sur le renouveau de la cuisine à base de moutons au pays du matin clair. En effet, longtemps jugée communément comme trop odorante, en fait parce qu'il n'y avait pas de business local de cette viande, le mouton et l'agneau ne sont réapparus qu'à travers les barbecues grecs et turcs, avant de se généraliser récemment. La métaphore du film est peut-être culinaire. L'avenir nous le dira.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de votre fidélité à KBS World Radio. Excellente soirée à tous.